Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous rendrons dès le début de ce journal au tribunal de Paris où la cour d'assises spéciale doit entendre aujourd'hui les premiers témoignages des rescapés de l'attaque djihadiste perpétrée en 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo.
Dans votre journal également, le Premier ministre Jean Castex était ce matin à la clôture des journées parlementaires du Modem.
Oui, comprenez le groupe centriste qui hier encore a accueilli trois nouveaux transfuges venus de La République En Marche. La revitalisation des centres urbains des villes moyennes constitue un accélérateur du plan de relance gouvernemental, c'est ce qu'a assuré hier le ministère de la Cohésion des Territoires, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Roland Mouchel-Blaiseau, directeur du programme national Action Cœur des Villes.
Puis cap à l'Est, s'agit-il d'une nouvelle étape de la répression visant l'opposition biélorusse ?
Maria Kolesnikova, figure de la contestation qui vise depuis un mois le président Loukachenko, a été arrêtée ce matin dans des circonstances encore troubles à la frontière ukrainienne. Enfin, si des deux côtés de la Manche, les derniers mois auront surtout été occupés par la gestion de la crise sanitaire, le Royaume-Uni et l'Union européenne doivent entamer aujourd'hui un énième cycle de négociations sur la nature de leurs relations futures post-Brexit. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Il a exploré les océans, il a permis notamment la sanctuarisation de l'Antarctique, il a donné de la voix à Rio dans les années 90. Ce monde tel que l'avait pensé, défendu le commandant Cousteau, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Nous parlerons de cet héritage, nous le mettrons en balance aussi avec la petite fille de l'explorateur Céline Cousteau qui signe Le Monde après mon grand-père chez Fayard.
Merci et à tout à l'heure. Après la projection hier des vidéos de la tuerie à Charlie Hebdo, le cheminement vers l'horreur devrait à nouveau submerger aujourd'hui la cour d'assises spéciale de Paris avec cette fois-ci les premiers témoignages de ceux qui, impuissants, ont assisté à ce bain de sang. Alors les auditions des témoins de l'attaque dans les locaux du journal satirique sont attendues en toute fin d'après-midi. Ce matin, en revanche, étaient entendues les parties civiles qui, elles, ont croisé les frères Kouachi lorsque ces derniers cherchaient encore l'entrée des locaux de la rédaction. Compte rendu d'audience signé Florence Turme.
L'attentat, c'est comme une cicatrice. Tous les jours, je la vois, elle ne me gêne pas, mais si je commence à me gratter, elle me fait mal. 58 ans, robe noire, cheveux poivre et sel, masque sur le visage, elle se tient très droite à la barre, sans un regard pour les accusés, répartis de part et d'autre dans deux boxes. Les bureaux de sa société étaient installés dans le même immeuble que celui de Charlie Hebdo, et c'est la première porte que les frères Kouachi poussent dans leur recherche pour accéder au journal. J'ai vu surtout leurs cagoules, leurs gants, des armes, explique Patricia. Le plus grand m'a demandé si c'était Charlie Hebdo, j'ai dit non, il a tiré. Deux fois, par terre, la balle va ricocher sur une poutre métallique se figer dans une autre. Les terroristes partis, elle a fait baisser le rideau de la porte, on a voulu appeler Charlie, mais on n'avait pas le numéro, on a entendu des coups de feu, j'ai dit... Ils sont en train de tous les tuer. Depuis, elle a été licenciée, comme trois autres des parties civiles venues témoigner ce matin. Stress post-traumatique, indiquent les psychiatres qui les ont examinés. J'ai cru mourir, j'ai culpabilisé, indique sa collègue, les bras serrés autour de son corps. J'étais une battante, je suis une loque, poursuit-elle. J'ai encore peur de mon ombre, toujours peur qu'on me tue. Patricia, l'ancienne directrice commerciale, articule, voix tremblante et ferme à la fois. Ils m'ont tuée, ils nous ont tous tués. Et pour moi, ce sont des terroristes. Elle parle des accusés qui protestent dans le box. Ali Rizapolat invective le témoin. T'es qui, toi, pour dire ça? Saïd et Chérif Kouachi, ils ont quoi à voir avec nous? L'avocat général s'insurge. L'avocate de l'accusé risque une explication. Cela fait 5 ans et demi qu'ils sont emprisonnés. Très droite, le regard toujours face à la cour, le témoin reprend. Moi, je suis emprisonné depuis 5 ans dans ma tête. Et ce que j'ai dit, je le pense.
Jean Castex était ce matin dans les Landes pour la clôture des journées parlementaires du Modem. L'occasion pour le Premier ministre de réaffirmer son statut de chef de la majorité, ce qui a priori s'annonce comme un véritable défi, et pas seulement parce que son prédécesseur, Édouard Philippe, n'avait jamais réussi lui à incarner ce rôle. Non, la vraie difficulté tient surtout à ce que le flux de départ du parti présidentiel n'a pas tari cette année, au point que le groupe a même perdu la majorité absolue à l'Assemblée. Or, hier encore, trois députés LREM ont choisi de rejoindre leurs alliés centristes. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'hémorragie se poursuit donc au sein du parti présidentiel et en l'occurrence c'est donc le Modem, Pierre, qui se frotte désormais les mains.
Et voilà donc le Modem en position de force au sein de la majorité. Non seulement son président François Bayrou vient d'être nommé haut-commissaire au plan par le chef de l'État, mais en plus son groupe parlementaire aimante, pour ne pas dire siphonnent les députés du groupe LREM à l'Assemblée. Vous l'avez dit, ce sont trois nouveaux députés marcheurs qui viennent de rejoindre le groupe présidé par Patrick Mignola, celui-là même qui avait souhaité que la majorité s'élargisse, se réorganise autour des trois composantes que sont le groupe Agir de Franck Riester, le MoDem et La République En Marche. Il faut dire que le tempo est parfait pour le MoDem qui profite d'une forte zone de turbulence au sein du groupe LREM avec des députés de l'aile gauche et des marcheurs qui ont repris leur liberté de parole en se rassemblant sous l'étiquette écologie, démocratie, solidarité, sans oublier de parler de ces députés qui ne sont plus en confiance faute de chef et de ces députés qui ne reçoivent plus de signal de l'Élysée. C'est donc dans ce contexte difficile pour la majorité que le Premier ministre Jean Castex s'est rendu ce matin aux journées parlementaires du MoDem pour une opération de câlinothérapie, l'occasion pour lui de s'afficher en chef de la majorité.
Premier ministre, je l'ai rappelé, ça a surpris certains, c'est le chef de la majorité parlementaire au terme de nos institutions. Et j'ai devant moi une composante active, dynamique, féconde de la majorité parlementaire.
Et voilà donc toute la différence avec son prédécesseur Édouard Philippe qui refusait de jouer ce rôle de chef de la majorité. Après les députés d'Agir et ceux du MoDem, Jean Castex conclura cette séquence en fin de semaine avec les députés LREM pour essayer de former une nouvelle coalition, une fédération des partis de la majorité capable de soutenir les grands chantiers du gouvernement et de nouer des alliances nécessaires dans la perspective des prochaines échéances départementales, régionales l'an prochain, sans oublier bien sûr la présidentielle de 2022.
Merci Pierre Neveu. Autre tentative d'OPA, une vraie, celle-ci, Veolia souhaite, vous le savez, racheter son concurrent historique Suez en commençant par la reprise de l'essentiel des parts détenues par Engie qui a reçu une offre de près de 3 milliards d'euros valable jusqu'au 30 septembre. Et bien ce matin, vent debout contre cette offre de rachat, les syndicats de Suez appelaient à un débrayage de 2 heures. Ils redoutent en particulier des doublons qui entraîneraient des suppressions de postes. Après le rebond de l'activité permis par le déconfinement, la reprise de l'économie française sera moins rapide en fin d'année et le chômage devrait encore grimper autour de 9,5% selon les chiffres publié par l'INSEE. Certains secteurs risquent en effet de rester affectés par les contraintes liées à l'épidémie. Pour autant, le ministre de l'économie entend rester optimiste. Nous sommes dans la bonne direction, a réagi encore ce matin Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse de présentation d'un plan de soutien à l'hydrogène. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous vous trouvez actuellement, Hakim, à la Maison de l'Amérique latine où se tenait justement cette conférence de presse où le ministre a donc confirmé l'octroi d'une enveloppe de 7 milliards d'euros sur 10 ans à la filière hydrogène.
Oui, si la France a toujours maîtrisé depuis des années la technologie hydrogène, notamment grâce à la fusée Ariane, aujourd'hui l'hydrogène reste à un coût prohibitif, ce qui fait que cette énergie n'est pas assez compétitive. Mais pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a aussi une question de souveraineté, notamment face à la Chine et aux États-Unis.
Nous ne mettons pas 7 milliards d'euros pour subventionner de la consommation d'hydrogène produit hors des frontières françaises. Nous mettons 7 milliards d'euros pour bâtir une nouvelle filière industrielle et relocaliser des activités industrielles sur le territoire français, avec les emplois qui vont avec les qualifications qui vont avec les financements et les entreprises industrielles qui vont avec.
7 milliards qui vont notamment de permettre de développer des filières comme les transports, puisque Renault fabrique déjà aujourd'hui des utilitaires à l'hydrogène, Alstom des trains régionaux qui roulent déjà en Allemagne, un pari auquel veut également croire Florent Ménégo, le PDG de Michelin, qui lui aussi a signé des partenariats avec Symbio pour les piles à combustible et Faurecia pour des réservoirs à hydrogène pour les camions et les voitures.
C'est les bus, les camions, les camionnettes. Et ensuite, ça sera la très très grande série avec les voitures. Mais vous avez aussi les navires, les trains, les avions. Pourquoi pas les avions? Parce que l'hydrogène est une énergie très efficace. Et elle est aujourd'hui bien maîtrisée. Et dans quelques années, elle sera encore mieux maîtrisée. Et donc la mettre dans un avion, ça sera tout à fait possible.
Alors pour les avions, il faudra tout de même attendre 2035 et encore, car c'est une véritable technologie de rupture. En attendant, la priorité du gouvernement sera de verdir l'hydrogène, car aujourd'hui, il est issu à 95% d'énergie fossile, notamment de gaz, d'où l'importance de développer la filière éolienne.
Merci Hakim Kasmi ainsi qu'à Martin Croatec pour les moyens techniques. Les députés de l'Assemblée nationale débutent aujourd'hui l'examen du projet de loi sur la recherche, objet de vives critiques dans le monde universitaire et scientifique qui redoute en particulier l'avènement d'une recherche sélective mais aussi d'une explosion de la précarité. Après un printemps happé par la pandémie, puis un été passé en négociations infructueuses, Londres et Bruxelles se retrouvent aujourd'hui pour une énième confrontation directe, plus exactement la 8e séance de pourparlers. Car depuis qu'il a formellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier, le Royaume-Uni reste, vous le savez, régi par la réglementation européenne, en attendant que les deux parties s'entendent donc sur un accord de libre-échange avant la fin de l'année. Sauf que de soubresauts en coup de théâtre, une nouvelle complication est venue s'ajouter hier aux deux principaux points de blocage des négociations que sont déjà la pêche et les règles de la concurrence. Le gouvernement britannique menacerait à présent de remettre la question de l'Irlande du Nord sur la table. Ou dit autrement, Marie-Pierre Véraud, l'ambiance s'annonce plus que jamais orageuse.
Comme si les sujets de blocage n'étaient pas déjà importants, comme si détricoter en quelques mois les relations entre deux partenaires et voisins aux économies si imbriquées et rédiger un accord de divorce établissant de nouvelles règles n'était déjà pas en soi un défi suffisant. Londres a donc rajouté une pierre dans le jardin des négociateurs britanniques et européens en laissant planer le doute sur sa volonté de respecter ce protocole pour ce qui concerne l'Irlande du Nord. Il faut dire que les Brexiteurs les plus sourcilleux n'ont jamais accepté ce qu'il voit comme une ingérence dans les relations entre Londres et sa province, qu'une mer sépare du reste de la Grande-Bretagne. Mais avant ce dernier épisode, les dossiers compliqués étaient déjà posés sur la table, au premier rang desquels la pêche. Les bateaux européens pêchent 8 fois plus dans les eaux britanniques que les Britanniques dans celles de l'Union. C'est dire si nos pêcheurs dépendent de l'accès à ces eaux parmi les plus poissonneuses d'Europe, dont Boris Johnson veut retrouver le contrôle. Mais les Britanniques dépendent aussi de nos marchés. Ils exportent en Europe les 3/4 de leurs prises. Michel Barnier dispose sans doute là d'un levier pour un accord. Mais cela coince aussi sur les aides d'État, sur le respect des droits des travailleurs, des réglementations fiscales et environnementales. Londres serait déjà tenté de les amoindrir. L'UE ne veut pas d'un concurrent dérégulé à sa porte. Vient donc à présent cette loi qui remettrait en cause la signature d'octobre dernier. Londres tente de minimiser et parle d'ajustements techniques, mais le mal est fait. La confiance est au plus bas. On aurait pu rêver climat plus serein pour aborder ces dernières difficultés.
Près de 3 semaines après avoir été victime d'un malaise à bord d'un vol commercial en Sibérie, la bête noire du Kremlin, Alexeï Navalny, a pu être sorti de son coma artificiel hier. Les médecins restent toutefois prudents sur l'état de santé de l'opposant russe et estiment qu'il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences à long terme de l'empoisonnement dont il a été l'objet et dont Berlin déclare avoir la preuve. On était sans nouvelles d'elle depuis hier matin après qu'elle eut été enlevée à Minsk par des individus masqués puis conduite dans une voiture banalisée vers une destination inconnue. L'opposante biélorusse Maria Kolesnikova a finalement été arrêtée aujourd'hui à la frontière avec l'Ukraine dans des circonstances qui demeurent encore floues. Elle aurait été extraite de la voiture avant que le chauffeur ne parvienne à franchir la frontière avec 2 autres militants. Alors, faut-il en déduire que Maria Kolesnikova n'aurait pas été arrêtée sur ordre du pouvoir ni kidnappée hier, mais qu'elle était davantage sur le point d'être transférée vers un pays limitrophe? Pour l'heure, Claude Brouillot, il convient surtout de rester prudent quant aux différents scénarios possibles.
Le pouvoir biélorusse aurait voulu discréditer Maria Kolesnikova, qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Officiellement, l'opposante numéro 1 à Alexandre Loukachenko, encore sur place, aurait tenté de forcer un poste frontière vers l'Ukraine, mais aurait été arrêtée par les gardes en faction et se trouve donc toujours en territoire biélorusse. La version des partisans de Maria Kolesnikova est bien différente. L'intéressée, au contraire, aurait déjoué les plans des services biélorusses qui l'ont arrêté manu militari hier matin en déchirant son passeport pour ne pas être en capacité de quitter le territoire biélorusse. Maria Kolesnikova était accompagnée par 2 autres membres du comité de coordination qui réclament le départ d'Alexandre Loukachenko. Il s'agit d'Ivan Kravtov et d'Anton Rodnenkov qui, eux, auraient rejoint le territoire ukrainien et dont la version des faits sera des plus intéressantes. Au-delà de cet épisode, digne de la guerre froide, se confirme la volonté du pouvoir biélorusse de tout faire pour priver de leader le mouvement d'opposition en espérant ainsi qu'il finira par perdre de son ampleur, faute de figure charismatique.
Et je précise que pendant ce temps, le président autocrate Alexandre Loukachenko, rassuré par l'appui solide venu de Moscou, continue lui méthodiquement de faire arrêter ou expulser les opposants et notamment les membres du conseil de coordination, pourtant spécialement formés pour tenter un dialogue avec le régime. Ultime étape de la procédure judiciaire lancée par l'Arabie Saoudite en réponse au meurtre de Jamal Khashoggi. Hier, un tribunal de Riyad a condamné 8 personnes, dont l'identité n'a d'ailleurs pas été dévoilée, à des peines allant de 7 à 20 ans de prison, un verdict qui annule donc les 5 peines de mort qui avaient pourtant été prononcées par la justice en décembre dernier. Sentence, rappelons-le, qui avait elle-même blanchi les cerveaux supposés de cet assassinat. Ces peines sont désormais définitives et exécutoires. Comprenez, l'affaire Khashoggi est à présent classé. Un verdict aussitôt qualifié de farce par la fiancée turque de l'ancien critique du royaume wahhabite. Devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse, le journaliste indépendant algérien Khaled Drareni doit être rejugé aujourd'hui en appel. Incarcéré depuis le 29 mars dernier, il avait été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale. Un verdict d'une sévérité sans précédent à l'encontre d'un journaliste. Eux étaient correspondants en Chine et ils viennent tout juste d'être exfiltrés. Bill Birtles et Mike Smith avaient été perquisitionnés et interrogés en pleine nuit quelques jours plus tôt par les services de renseignement chinois. Les deux reporters sont donc désormais de retour en Australie. Un épisode qui témoigne une fois encore des tensions entre Canberra et Pékin. Explication à Sydney de notre correspondant Grégory Pless.
Bill Birtles était en train de fêter son départ avec des amis quand la semaine dernière, 7 agents des services de renseignement chinois ont débarqué chez lui à minuit passé. Correspondant pour la télévision publique ABC, il avait reçu quelques jours plus tôt un appel de l'ambassade australienne lui conseillant de quitter la Chine au plus vite. Idem pour son confrère Mike Smith, basé lui à Shanghai et correspondant d'un quotidien économique. Avant d'être arrêtés, les deux journalistes sont allés se réfugier à l'ambassade pour l'un, au consulat pour l'autre, avant de pouvoir s'envoler pour Sydney. Voici ce qu'a déclaré Bill Birtles en sortant de l'avion.
C'est très décevant de devoir partir dans ces circonstances, mais c'est aussi un soulagement d'être de retour dans un pays où s'applique l'état de droit.
Depuis maintenant des mois, les motifs de brouille se multiplient entre la Chine et l'Australie. Accusations d'espionnage, mesures de rétorsion commerciale, les relations entre Pékin et Canberra n'ont jamais été aussi tendues. Le mois dernier, une autre journaliste australienne, Cheng Lei, n'a elle pas eu autant de chance. Elle est depuis détenue à Pékin, sans possibilité de parler à un avocat ou même à sa famille.
Et précisons que ce matin, les États-Unis ont à leur tour accusé la Chine de menacer et de harceler les journalistes étrangers, en particulier après la décision de Pékin de geler les accréditations de plusieurs médias américains. La justice équatorienne a confirmé hier la condamnation à 8 ans de prison de l'ancien chef d'État coréen jugé par contumace pour corruption, ce qui signifie qu'après un éventuel et ultime recours, l'homme qui se dit toujours innocent est victime d'un complot fomenté par son rival et actuel président Moreno sera interdit à vie de se présenter devant les électeurs. Et puis en Bolivie, là-bas, la justice a confirmé l'interdiction à l'ancien chef d'État Evo Morales, réfugié en Argentine, de se présenter au Sénat lors des prochaines élections, compromettant ainsi son retour en politique après sa démission, c'était en novembre dernier. Comment revitaliser le centre des villes moyennes? C'est tout l'objet du programme Action Cœur des Villes qui débute aujourd'hui même ses 3e rencontres nationales. Et pour en parler avec nous, nous recevons aujourd'hui son directeur, Roland Mouchel Blaiseau. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors quand ce programme a été lancé, le but était non seulement de stopper l'hémorragie, mais aussi de revitaliser le centre de ces villes moyennes en quête d'attractivité. Où en est-on 3 ans plus tard?
Alors le programme a été lancé il y a un peu plus de 2 ans, c'était au printemps 2018, avec une double dimension. Un, renforcer l'attractivité des villes moyennes, mais en faisant le choix prioritaire d'investir dans les cœurs de ville. Après à peine 2 ans de mise en œuvre, nous sommes à plus d'1,3 milliard qui ont de financement de l'État et des partenaires financiers qui ont été mobilisés pour les projets des collectivités, puisqu'on part des projets des collectivités. Ce que nous disons aux collectivités, c'est que nous mettons des moyens d'ingénierie, de subventions, de prêts à votre disposition, mais vous devez traiter en même temps tout ce qui forme l'attractivité d'une agglomération, c'est-à-dire le logement, c'est-à-dire les commerces, c'est-à-dire les transports, c'est-à-dire les services, c'est-à-dire le patrimoine, c'est-à-dire le cadre de vie, le paysage, la nature en ville. Et on laisse à chacune des municipalités des 222 villes sélectionnées, de métropole et d'outre-mer, le choix d'élaborer elles-mêmes leurs projets, Ce qu'on leur dit en revanche, c'est que pour que ce soit efficace, on va partir de vos projets, mais vous devez traiter en même temps tous ces sujets. Sinon, bien sûr, beaucoup de politiques publiques ont échoué précédemment, puisque on traitait de manière séparée et cloisonnée toutes ces thématiques. On ne développera pas le commerce s'il n'y a pas des logements rénovés, s'il n'y a pas des transports adaptés, etc., etc. Donc c'est vraiment une approche globale, mais qui part vraiment des réalités du terrain.
Alors, c'est un plan de long terme aussi, global, vous l'avez dit. Est-ce que deux ans après, il n'y a pas déjà quelques signes positifs, notamment en termes de marché immobilier, qui est un signe du retour peut-être de certaines catégories de population dans le cœur de ces villes moyennes entre 30 et 50 000 habitants?
Oui. Voilà, elles font d'ailleurs... D'ailleurs, le critère n'a pas été uniquement un critère démographique. En clair, c'est toutes les villes sous-préfecture qui sont juste en dessous des très grandes métropoles. Et toutes ces villes, en clair, on va de Chinon, 8000 habitants, à Limoges, qui en fait près de 140 000, parce que toutes ces villes ont une caractéristique commune, c'est qu'elles jouent un rôle de centralité irremplaçable pour tout leur territoire. Quelles sont les actions qui ont déjà été engagées? C'est bien sûr une politique très forte de rénovation des logements. Il y a 400 000 logements vacants dans les centres de ces 222 villes, et que si on veut, bien sûr, attirer des nouvelles populations, il faut qu'elles puissent trouver des logements adaptés. C'est aussi toute la modernisation des commerces de proximité et aussi une certaine lutte ou meilleure maîtrise de la périphérie commerciale. C'est le développement de nouvelles formes de transport et de mobilité douce. Et puis, c'est dans des villes à taille humaine, valoriser les paysages, les espaces verts, l'adaptation au changement climatique, des îlots de chaleur. Enfin bref, alors, et puis c'est aussi tous les équipements.
Bien sûr, alors simplement
en centre-ville ou en périphérie, c'est pas la même chose.
Une petite question sur le sujet des commerces, la vacance commerciale, donc ces commerces de centre-ville qui ont tiré le rideau et qui ne retrouvent pas de repreneurs, c'est toujours un phénomène prégnant, deux ans après la mise en place de ce programme, qui certes prendra du temps, mais comment on fait spécifiquement pour ce problème-là? Ça coûte cher pour les villes de prendre en charge ces commerces de centre-ville et d'essayer de les faire vivre. Est-ce que, notamment dans le cadre du plan de relance, il y a de l'argent qui va être encore mis là-dessus, sur ce sujet-là?
Alors, vous avez raison, la dimension de la protection et surtout du développement du commerce de proximité est un enjeu stratégique. D'abord, il fallait arrêter de continuer à bâtir des zones périphériques qui ont vidé nos centres-villes. Et ça, vous avez encore vu, y compris le président de la République, le Premier ministre, ont donné des instructions très fermes en ce sens. Et le programme Action Cœur de Ville, depuis deux ans, est dans cette philosophie. Deuxièmement, il faut beaucoup de commerces de proximité, ne sont plus adaptés, sont trop petits, sont parfois vétustes, et donc il faut restructurer les cellules commerciales. Troisième enjeu, il faut aussi développer des nouvelles formes de commerce, les circuits courts, les drives, les marchés, les halles, etc., qui sont aujourd'hui plébiscités par nos compatriotes. Enfin bref, c'est tout un ensemble de mesures pour aider le commerce de proximité. Mais là où vous avez raison, il y a un taux de vacances moyen. Bien sûr, il y a des villes qui se portent mieux, d'autres qui se portent moins bien, qui a un taux de vacances de 13% dans les centres-villes des villes moyennes, qui est d'ailleurs, dans les petites et moyennes villes, on a un peu ce taux équivalent. Donc c'est un problème national. Mais là, nous étions en train de commencer à le faire baisser avec les premières mesures d'Action Cœur de Ville, mais c'est vrai que la crise est arrivée et menace pour cet automne qu'un certain nombre de commerces, de restaurants, etc., ne puissent pas passer cette crise. Et donc, dans le cadre du plan de relance, avec aussi l'appui de la Caisse des dépôts et consignations, nous allons renforcer les mesures de la modernisation des commerces de proximité, et avec aussi des co-investissements à la Caisse des dépôts dans beaucoup de structures foncières pour aider ces commerces, je dirais, à se moderniser et à être beaucoup plus attractifs.
Alors, dernière petite question, mais peut-être que vous allez y venir.
La grande distribution s'investit dans les cœurs de ville.
Cette question des commerces, elle va avec la question de l'emploi. Les gens qui viennent dans ces centres-villes veulent travailler. Elle va avec la question des services publics aussi. Comment on articule tout ça? Alors, je vais vous demander d'être bref, mais à la fois, on lance ce programme Action Cœur de Ville, et puis de l'autre côté, Bercy, par exemple, décide un regroupement des trésoreries. Donc, on enlève des services publics dans ces villes-là qui vont se regrouper dans des plus grandes métropoles. Est-ce que c'est articulable, ces deux politiques?
En tout cas, la dimension du développement des équipements et des services dans les villes moyennes est un enjeu extrêmement important. Vous avez cité certaines administrations, mais on peut parler aussi des équipements sanitaires, on peut parler des équipements sportifs, on peut parler des équipements culturels. Madame Bachelot inaugurait ce matin cette rencontre nationale et a rappelé tout le soutien du ministère de la Culture. C'est une stratégie globale de revitaliser nos cœurs de ville et nos villes moyennes. Nos villes moyennes
et on
sont
s'arrêtera là, je suis navré. Merci monsieur Roland voilà. Mouchel Blaiseau, directeur, je le rappelle, du programme Action Cœur des Villes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne Lorchaud. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Nuageux de la Bretagne au nord de la Seine avec quelques ondées autour du golfe du Lion. Partout ailleurs, le soleil réussira à s'imposer. Quant aux températures, elles afficheront entre 20 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.